Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter Plus 2, tribunal des flagrants délires, l'émission satirique sous forme de procès de l'invité prévenu. Face à lui, le président du tribunal Claude Villers, surnommé par des proches Massif Central. Le ministère public lui était représenté par le procureur de la République des proches françaises. Le 8 février 1983, Claire Bretéché se présente devant le tribunal. Elle est doublement accusée d'homicide volontaire pour avoir pris la vie des autres afin de la retranscrire dans ses œuvres et de haute trahison, notamment de la lutte féministe. Robert Charlebois est son témoin. Alors, plus de justice, soirée flagrant délire sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la cour, l'avocat de la défense, Louis Régaud, la procureure générale de la République, Pierre Desproges, et le président, Claude Villers.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Claire Bretéché. Ah !
Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Claire Bretéché, 40 ans, dessinatrice de presse.
Je ne vais pas vous demander de le prouver, à la radio ça donne pas grand-chose. Claire Bretéché, vous êtes inculpée de vol qualifié et d'homicide volontaire. Pour suppléer votre imagination, vous vous inspirez de la vie des autres dans vos dessins. C'est-à-dire que vous volez aux autres leurs instants de bonheur, de malheur, leur joie, leur peine, leur fantasme. En fait, vous leur prenez leur vie. Vous êtes inculpée également d'incitation au racisme. Dans vos dessins, vous grossissez, vous caricaturez le moindre petit défaut humain et vous transformez vos modèles en monstres, des intellectuels gauchistes, snobs, écolos, insupportables, de crétinerie, les frustrés, des bonnes sœurs illuminées, la vie de Sainte Thérèse, des filles à papa nymphomanes, cellulite, des femmes enceintes neurasthéniques ou des mères bétifiantes, les mères, etc., etc. Et à montrer ainsi du doigt certains et certaines de vos contemporains, vous les désignez à la vindicte populaire, car les cons, c'est bien connu, ce sont toujours les autres. Pourquoi pas aussi vous moquer des jaunes, des juifs, des nègres, des coiffeurs, etc., etc. Vous êtes enfin inculpé de haute trahison. En effet, les féministes estiment que vous trahissez la lutte des femmes par vos dessins et vos déclarations. Comme par exemple, je cite cet extrait d'une interview dans Elle en avril 1978. Je cite « Je pense qu'actuellement, il faut chouchouter les hommes parce qu'il n'y a que l'amour dans la vie d'intéressant. » Et que si on les emmerde, les hommes, eh bien c'est pas malin. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on continue, ils vont tous devenir pédés. Vous reconnaissez les faits ?
Je me souviens pas d'avoir dit ça dans les interviews, on dit n'importe quoi, vous savez.
Bretéché Claire, vous êtes né en 1943 à Nantes, dans une famille d'huissiers.
Pourquoi ?
Mais non.
Combien était-il ?
Vous êtes monté ensuite à Paris en 1960 et vous êtes devenu professeur de dessin.
Oui.
Vous avez enseigné 6 mois.
Oui.
Vous êtes ennuyé.
Oui.
Dans l'éducation nationale.
Oui.
Et vous êtes devenue dessinatrice en allant proposer vos dessins dans différents périodiques, mais principalement réservés aux enfants.
Non, mais les dessins qu'on fait pour les enfants sont moins bons. Alors c'est plus facile pour débuter.
Ah bon, on soigne moins les dessins pour enfants?
Moi, je trouve que les journaux pour enfants sont idiots, mais je sais pas, enfin, c'est un point de vue personnel.
Vous en lisez ?
Non. J'en ai lu beaucoup, évidemment, à une époque, mais...
Vous ne lisez pas Le Monde ?
Non, justement, parce qu'il n'y a pas d'image.
Ah, il y a un bulletin météo vachement marrant. Oui.
Il y a un dessin d'une carte de France. Alors, vous avez commencé à Spirou, et vous avez été licencié de Spirou pour absence de talent par le rédacteur en chef belge de Spirou. Eh bien, ça fait partie de votre biographie, Madame Bretéchet.
Et tout ça, c'est faux, là.
Dans le Crapouillot.
Le Crapouillot, c'est pourtant le groupe Minute, c'est pas des cons.
Il cite même une phrase de Roland Barthes qui dit de Claire Bretéchet, le meilleur sociologue français. Ça, c'est vrai ?
Il doit être bourré.
Ah bon ? Ça lui arrivait, paraît-il. Alors, vous n'avez pas été licencié de Spirou ?
Je me souviens, à vrai dire, pas très bien. Ah, je sais que le rédacteur en chef n'aimait pas ce que je faisais.
Ah, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose. Et puis, vous avez essayé à elle, il paraît qu'elles ont été très méchantes à elle avec vous.
Oui, très désagréables, très snobes, très contre. Et... Ben, je ne sais pas, parce que ma tronche ne leur revenait pas, sans doute.
Et c'est comme ça que sont arrivés les frustrés ? Ou avant, il y a eu encore d'autres épisodes ?
J'ai travaillé à Pilote, mm-hmm. avec René Goscinny, et après au Nouvel Observateur.
Et dans Pilote, vous considériez ça comme un mensuel, enfin à l'époque c'était hebdo même, je crois, pour enfants, ou c'était déjà le passage à la bande dessinée adulte ?
Ça tentait de l'être, oui.
Ça tentait de l'être. Et c'est là qu'est née Cellulite.
Oui.
Vous pouvez rappeler qui était Cellulite ?
Cellulite, c'est une princesse moyenâgeuse qui a envie de se marier, qui n'y arrive pas, et qui est très obsédée sexuelle et qui a un père caractériel.
Oui. Et c'était dans une publication destinée à la jeunesse.
Oui, oui.
Vous trouvez que c'est un bon exemple pour nos chères petites têtes blondes ?
Ça, je ne saurais pas dire.
Oui, 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 moi je le dis à votre place.
C'est normal, vous êtes brun.
Qu'est-ce que vous avez contre les bruns, président ?
Rien du tout. Non, mais sérieusement, toujours de faire des femmes nymphomanes, des bonnes sœurs illuminées, ça vous a attiré quelques problèmes ? Par exemple, la vie de Sainte Thérèse. Vous avez eu des problèmes avec la hiérarchie catholique ?
Oui, la direction du journal a eu quelques problèmes, oui.
Pourquoi ?
Parce qu'en France, il ne faut pas toucher à la religion, c'est considéré comme sacrilège, oui.
On va se gêner, tiens. Et non, mais sérieusement, que s'est-il passé alors ? Le journal, c'était le Nouvel Observateur.
Oui.
C'est un journal qui est réputé de gauche et qui a des relations avec la hiérarchie catholique, tiens.
Il semble que beaucoup de lecteurs de gauche soient très conservateurs.
Mais les conservateurs ne sont pas forcément catholiques.
Ça va avec, je crois.
Mais pourtant, vous avez eu vous-même des accointances avec des milieux conservateurs, puisqu'en 1976, vous avez été invité à déjeuner à la même table que M. Giscard d'Estaing.
Oui, en effet, oui.
Qu'est-ce que vous avez mangé ? Oh.
Il y avait une espèce de truc roulé de chez Dodin Bouffant qui n'était pas fameux. Et personne ne savait comment le manger.
C'était quoi ? C'était des électeurs roulés ou c'était Mais vous avez lié sympathie avec M. Giscard d'Estaing ?
Non, je lui ai dit trois mots, comme il a dit à chacun des invités. Mm-hmm.
Mais c'était un acte politique pour vous ou...
Non, je voulais voir comment ça se passait dans les grandes maisons.
En revanche, il y en a d'autres qui vous ont parodié et qui, dans Libération, avaient fait des choses pas très gentilles. D'ailleurs, vous n'étiez pas très contente et vous avez même menacé de faire un procès. Pourquoi ?
Oui, oui. Oh, c'est vraiment une longue histoire, ça.
Ça fait rien, on a le temps.
Non, ils ont pris une page qu'ils ont détournée, ce qui était tout à fait de bonne guerre, et je leur ai demandé de m'en rendre une, et ils ont refusé, voilà.
Alors, parce qu'ils vous accusent d'avoir manqué d'humour.
Oui, 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 en effet.
Bon, d'accord, parlons d'autre chose.
Je ne parle pas dans vos dessins, je parle dans la vie privée.
Pas forcément.
Il y a des choses qui vous choquent, qui vous horripilent. Vous n'acceptez pas qu'on plaisante dessus, par exemple. Pas du tout.
Non, j'aime pas qu'on me pique mes trucs, c'est tout, mais autrement, je crois pas que grand-chose me choque. Non.
Mais certains dessinateurs disent qu'en fait, il n'y a pas de propriété véritable du dessin, puisque le dessin, c'est quelque chose qui est pris dans la vie des autres.
Ah oui, d'accord.
Vous êtes inculpé, je le rappelle, de vol qualifié.
Ah oui, c'est vrai, oui. Mais comment faire autrement ?
Je ne sais pas, dessiner des petits oiseaux, dessiner des fleurs, dessiner...
Je sais pas si c'est commercial.
Ah bon ? Ça compte beaucoup, que ce soit commercial pour
vous ?
Un
peu, oui.
Ah bon ? C'est pour ça que vous êtes devenue votre propre éditrice. Pardon. Mm-hmm. Mais vous faites imprimer vos bandes dessinées dans des pays étrangers. Pensez-vous qu'en cette époque de crise internationale, ce soit bon pour l'économie française ?
Ça resserre les liens internationaux, déjà.
Oh, la vilaine ! Oh, l'hypocrite !
C'est très bien envoyé. Ça. Prenez note, Marco.
C'est vrai, vous pensez que c'est quelque chose de bien pour les relations internationales. Mais est-ce que c'est bon pour les ouvriers français du livre?
Ah, ça, c'est des questions qui me dépassent, oui. Ça, je sais pas. Je n'ai pas des notions d'économie très, très affirmées.
Bah, et il semblerait que d'autres en aient pour vous, puisque je lis dans France Soir du 4 décembre 92, c'est-à-dire cette année, que vous aviez décidé normalement de ne plus poursuivre Les Mères, la série sur Les Mères, et que, en revanche, parce que vous vouliez vous reposer un peu, mais qu'en fait vous aviez reçu quelques courriers pressants de M. Laurent Fabius, c'est-à-dire ministère de l'économie et des finances, et que cela vous poussait à continuer des bandes dessinées et d'autres, et que vous alliez maintenant, après vous êtes attaqué aux mères, faire des bandes dessinées sur les embryons. Je cite.
Ça m'intéresse.
Il était une fœtus. Non mais ça vous intéresse.
In vitro veritas, ça va s'appeler. Oui, c'est un bon titre, ouais. Se le donne.
Demandez à l'intérieur ce que vous ne voyez pas en vitrine. Quoi.
Mais ça baigne. Oh. Un titre.
À propos de ça baigne, qu'est-ce qui dit que la congélation du sperme c'est à la mode? C'est à la mode dans les goulags, c'est tout. C'est...
Tu sais ce qu'ils disent les Russes.
Camarade Rego, s'il vous plaît, un peu de tenue.
Tu sais qu'Aragon, il paraît qu'il est plus communiste.
Vous n'avez aucun sens de la poésie. C'est lamentable.
À la question du juge d'instruction, pour quelle faute avez-vous le moins d'indulgence? Vous avez répondu la créativité. Je hais ça. J'ai vécu avec des créatifs. Ils étaient nombrilistes, égoïstes, sans intérêt, invivables.
Oui, oui.
Ça veut dire que vous ne vous entendez pas avec les autres dessinateurs, par exemple?
Si, tant que je ne vis pas avec eux.
Mais vous avez vécu, entre guillemets, avec eux, à l'époque où avec Mandrika...
Non, je ne vivais pas.
Non, non, mais je veux dire... J'ai dit entre guillemets.
Oui, non, j'aime...
Vivre entre guillemets. Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
J'en connais sur France Inter qui vivent entre parenthèses.
Mais qu'est-ce que vous opposez aux créatifs?
Les employés de banque.
Ah bon, vous les trouvez plus rigolos?
Oui.
Bah tu vois,
parce
t'as des chances.
Parce qu'ils n'ont rien à dire.
Oui, exactement, voilà. Au moins, ils vous écoutent.
Ah, vous avez besoin qu'on vous écoute?
C'est de la misandrie, carrément.
La misandrie, tu dis?
Oui, c'est le contraire de la misogynie. Je ne l'ai pas inventé, c'est que je l'ai vu dans un gros dictionnaire.
Oui, c'est sûrement ça.
Mais dis donc, tu fais des études maintenant?
Alors, justement, dans les rapports avec les hommes... Vous avez eu quelques problèmes avec les féministes, parce qu'elles, elles écrivent.
Elles écrivent?
Oui, dans les magazines féminins, vous faites une déclaration, comme par exemple vous aviez pu faire à Marie-Claire. Je pense qu'actuellement, il faut chouchouter les hommes, parce qu'il n'y a que l'amour dans la vie d'intéressant, et que si on les emmerde, c'est pas malin, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on continue, ils vont tous devenir pédés.
Oui, mais j'ai dû dire ça à un moment où j'étais amoureuse, et là, ça m'a passé.
Vous dites après, ceux qui ont 40 ans maintenant sont trop vieux. Là, tu vois, t'as pas de peau. En revanche, qu'est-ce qu'il y a comme homosexuel parmi les jeunes maintenant? C'est fou. Je n'ai absolument rien contre les homosexuels, mais qu'est-ce que c'est triste pour les filles. Je crois que c'est en partie à cause du mouvement de libération. Mais il n'y a pas que cela, c'est aussi la conséquence de la psychanalyse. Les gens ont tellement pris l'habitude de se regarder le nombril que les autres ne les intéressent plus.
Je trouve ça complètement idiot.
Ah bon? C'était en 78, hein?
Oui, en plus, ça fait vraiment...
Vous avez
longtemps.
Évolué, peut-être,
oui,
depuis...
Tout à fait, oui.
Moi, je trouve que c'est pas complètement idiot de défendre la théorie selon laquelle l'augmentation supposée de l'homosexualité correspondrait à une augmentation du nombrilisme. C'est assez intéressant. C'est quand même très intéressant.
On va t'envoyer faire des recherches.
Mais tais-toi.
Monsieur le procureur, c'est pas avec le nombril que ça se passe.
Ah bon, bah, qu'est-ce qu'on fait alors?
On verra après la séance, si tu veux. À la question du juge d'instruction, Baloui. Ah, monsieur Rego.
Il me fait marrer.
Enfin. Mais ces gens que vous observez, ils font partie d'une certaine classe, une certaine caste, si vous préférez. C'est-à-dire qu'en général, il s'agit d'intellectuels de gauche. Sauf pour Sainte-Thérèse. Hein, mais, Alors, vous avez dessiné principalement les frustrés, en dehors des albums que vous avez pu en faire ensuite, dans un journal qui est réputé s'adresser aux intellectuels de gauche.
Oui.
Et les lecteurs n'ont pas réagi ? Ils se sont sentis visés ou pas ?
Oui, mais les gens aiment bien se retrouver. Ils aiment bien qu'on parle d'eux. Tout le monde aime bien, on aime bien ça.
Et vous croyez qu'ils se voient à leur avantage, même quand vous les grossissez, vous les...
Je pense que s'ils trouvent que c'est un peu trop, ils pensent que c'est leur copain.
C'est bien ce que je disais tout à l'heure, les cons sont toujours les autres.
Non, mais il y a des tas de faiblesses charmantes aussi.
Lesquelles, par exemple ?
Non, le genre, la crédulité aux idées à la mode et tout ça, moi je trouve ça très intéressant. Et c'est pas franchement attaquer quelqu'un que de parler de ça.
Vous n'avez pas d'idéologie ?
Je suis un peu imperméable aux certitudes.
Vous croyez en Dieu ?
Non.
C'est pour ça que vous avez dessiné la vie de Sainte Thérèse ?
Ah non, ça n'a aucun rapport. J'ai dessiné parce que je trouvais le personnage intéressant.
Mais vous l'avez découvert comment, ce personnage ?
J'arrive pas à me rappeler exactement. J'ai commencé à lire des choses sur elle et vous savez, plus on lit, plus on trouve ça intéressant.
Alors... Mais ce n'était pas parfois que vous aviez lu des ouvrages ?
Non, mais j'ai été quand même 16 ans chez les Bonnes Sœurs et j'en ai gardé un petit quelque chose.
Vous avez connu des Bonnes Sœurs qui ressemblaient à...
Mais non, malheureusement, elles restaient collées au sol d'une façon dramatique.
Mais bon.
C'est pour ça...
Ça doit être drôle, une Bonne Sœur qui s'envoie en l'air. Mais
oui.
Sainte Thérèse, c'était ça.
Ben oui, je sais. Et vous n'avez jamais eu envie de continuer ainsi la vie des saints illustrés,
Je trouve ça un peu systématique, mais si j'en trouve un bien juteux, oui. Mais je ne vois pas très bien, là, pour le moment.
Mais vous avez compulsé quelques ouvrages, vous êtes renseigné auprès des autorités ecclésiastiques.
Non, vous savez, j'ai un tel background que je peux trouver toute seule.
Il y a Saint Jean Ederne. C'est un saint remarquable. Il vole pas, mais il s'enlève tout seul.
Et les saints laïcs, justement, vous n'avez jamais eu envie de raconter leur histoire ?
Si, les saints laïcs sont beaucoup plus intéressants,
justement.
Je sais
pas, Lénine, Marx...
Oui, mais c'est trop difficile. Faut trop de documentation.
Le prince Rainier.
Oui, c'est...
Non.
Il n'est pas laïque, il a une tiare sur la tronche du matin au soir.
Quel rapport ?
Mais il est papal, un petit peu.
Non, il est tiaré. Vous avez une question à poser, monsieur le procureur ?
Oui, oui.
Ah bah, oui, qui, mon chien ?
Non, oui, cher Claire.
Ah bon.
Je vais vous poser deux questions. D'abord, une qu'on a dû déjà vous poser. La plupart des dessinateurs hommes représentent les femmes sous la forme d'obus pulpeux, souvent. Alors que vous en faites des consternants boudins imbaisables. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ou non ? Pourquoi vous représentez toujours les femmes comme des objets imbaisables ? Mais alors que les hommes ne font généralement que le contraire.
Mais ça fait longtemps que vous avez lu de la bande dessinée ?
De quoi ? Les vôtres ?
Non, en général, parce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées où les femmes sont mille fois pires que dans les miennes.
Ah non, je vois pas.
Ah ben, je vais vous donner. Je fais une bibliographie tout à l'heure.
Ah bon, je croyais quand même.
Il en est resté à Tarzan.
C'est quand même une tendance.
Non, vous en êtes resté à Astérix où effectivement il y a que les pépés et les mégères.
Non, je parle pas d'Astérix. Mais...
Non, c'est vrai que les femmes sont devenues très moches dans les BD.
Oui, il y a Edika qui fait des choses.
Edika, je pensais justement.
Oui, mais Edika, c'est un faux cul, Edika, parce que. D'abord, Edika, je t'emmerde, j'en ai marre. Il parle de moi dans tous les mois. Il se moque de moi dans son sale journal. J'en ai marre.
Il vous fait pas, voilà. Ça vous fait pas rire, Edika ?
Si, ça me fait énormément rire.
Énormément
c'est un des plus doués maintenant.
Moi aussi.
Mais il fait des femmes qui sont des vrais objets sexuels, mais il se déculpabilise en leur foutant un pif énorme. Mais c'est tout. Mais sinon, elles sont extrêmement bandantes, si j'ose m'exprimer ainsi.
Ah.
Vas-y, c'est vrai.
C'est vrai.
Enfin, oui, c'est vrai.
Un nombre de seins vraisemblables.
C'est vrai.
Mais non, parce que justement, j'essaie de faire des créatures moyennes. C'est-à-dire, nous toutes qui sommes dans la salle.
Ouais.
Pas des splendeurs.
Mais vous n'êtes pas moyenne du tout, pour
oui, merci. Mais... Non, mais je veux dire... Oui, si, des femmes ordinaires.
Puis je voudrais aussi vous poser une autre question. Le bon Dieu nous a donné le rire pour nous consoler d'être intelligents. Que pensez-vous de cette réflexion de Marcel Pagnol ? Expliquez, développez, racontez votre premier rire. N'oubliez pas d'aller à la ligne, vous avez 30 secondes. Je vous répète la phrase, elle est très bonne.
Non, merci, non. J'ai oublié déjà, c'est tellement long.
Non, le bon Dieu nous a donné le rire pour nous consoler d'être intelligents. Ça vous inspire quelque chose ou pas ?
Non, je trouve que plus on est intelligent, plus on rit.
Je parle pas pour les décérébrés à morue.
Ta gueule.
Mais il a écouté. C'est vrai ce que dit Bretéché, plus intelligent, plus on rit, la preuve. Il a vu tous les films des Charlots.
Eh, tu sais ce qu'ils disent, les Charlots.
Maître Régaud, avez-vous une question à poser à votre cliente?
Et j'aimerais savoir quels sont vos dessinateurs préférés parmi, enfin, les gens un peu plus jeunes que vous.
Pétillon, Margerin, il y en a beaucoup, mais...
Il y en a beaucoup, quand même.
Ouais. Enfin, disons que c'est Pétillon et Margerin, oui.
Huissier, veuillez procéder.
La cour appelle à la barre Robert Charlebois.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Charlebois Robert, 25 juin 44. Artiste, enfin, penseur original qui fait de la musique. Mm-hmm.
Vous jurez dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte, levez la main droite et dites je le jure.
Je le jure, votre horreur.
Mais, en France, on dit monsieur le président.
Monsieur le président.
Oui, merci. Je lis monsieur Charlebois dans Elle, d'octobre 1981. Oui, je lis beaucoup la presse féminine, oui.
La mode.
Je lis Robert Charlebois, deux points, j'ai un côté féminin. Mm-hmm.
Nous sommes deux alors.
Oui, j'admets, monsieur le Président, que je n'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps, mais j'ai l'intention de faire un effort.
Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai un côté féminin, quand un monsieur dit ça?
Ça veut dire qu'on a tous un côté féminin. Il y en a qui l'exploitent davantage que d'autres. Moi, j'ai négligé un peu le mien ces cinq dernières années. Et j'entends y remédier. Voilà. Mm.
Je vous pose cette question parce que dans Marie-Claire...
Encore?
Dans l'interview de Mme Bretéché, à un moment, Michel Manceau, la journaliste, dit « Est-ce que vous n'avez pas remarqué comme les hommes maintenant réclament leur droit à la féminité ?»
Je crois que les femmes ont le même problème que nous. On hésite toujours entre le grand amour platonique ou la franche camaraderie sexuelle. Et une belle amitié sexuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se rapprocher les uns les autres, quoi, pour vaincre nos hésitations.
Mais vous avez... Mais vous avez eu l'occasion de tester ce côté féminin, c'est-à-dire, en fait, d'avouer que... Bah, vous n'avez pas toujours envie de prendre l'initiative, etc.
Oui, ça m'arrive souvent.
Oui. Vous lisez des bandes dessinées, M. Charlebois?
Oui, j'en ai lu une ce matin, Paulette. Je ne sais pas de qui c'est, je crois
Richard.
Que c'est Gottlieb.
Richard. Hein? Richard.
C'est Volinsky. Bien, on parlait des femmes qui sont bien dessinées, il y en a là-dedans.
Mm. C'est le genre féminin qui vous plaît beaucoup, Paulette?
Oui, gros néné, complexe d'Édipe et tout, là j'aime ça, moi.
C'est plus les œufs au plat.
Ça me plaît, hein?
Non. C'est plus les œufs au plat.
Mais... Ouais, mais j'aime bien le genre androgyne. Je trouve que.
il faut varier un peu.
Tu sais ce qu'il dit, le genre androgyne?
Mais Louis, sans fin.
Je me sens visé, moi.
Non, mais je trouve que Claire est une très belle femme en ce qui me concerne. Je suis ici pour ses beaux yeux, d'ailleurs. Et elle a les sortes de lèvres que j'aime, une en haut, une en bas.
Vous lisez ces bandes dessinées?
Oui, je n'en rate jamais une.
Est-ce que vous vous sentez visé lorsqu'elle dessine les frustrés ou...
Non, pas vraiment, c'est un langage que... C'est
quand elle dessine les mères, est-ce que tu te sens visé?
Quand elle dessine père de famille.
Les mères.
Vous êtes père de famille?
Oui, et j'ai eu une grossesse très difficile. C'est pour ça que j'hésite à en faire un troisième. J'ai eu très mal à la tête. J'ai engraissé de 8 kilos. Ça s'appelle le symptôme de couvade. Mm-hmm. Je suis sûr que ça intéresse. Mm-hmm.
L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Claire Bretéché, qui est inculpée de vol qualifié, d'homicide volontaire, d'incitation au racisme et de haute trahison. La société française, Madame Bretéché, va maintenant requérir contre vous le maximum des peines, car vos crimes sont très graves. Et qui plus est, ces crimes vont être amplifiés par l'organe puissant et pas très généreux du procureur général de la République des Proches françaises.
Française, Français, Belge, Belge, Charleboise, Charlebois, Pétillonne, Pétillon.
Mon président, mon chien, cher clair, cher sombre.
Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Plus je connais les hommes, moins j'aime ma femme, disait Aragon. Ce à quoi j'ajouterais, parodiant sans vergogne l'inoubliable auteur des yeux d'Elsa Popine. Plus je connais les femmes, moins j'aime Claire Bretéché. Je hais cette femme, mesdames et messieurs les jurés. Elle m'a trop fait mal. Du pimpant séducteur que j'étais, cette femme...
Ah, il y a tromperie sur la marchandise.
Du très pimpant séducteur que j'étais.
Pimpant, pimpant.
Casse mon cou, là.
Cette femme que vous voyez là, mesdames et messieurs les jurés, écrasant de sa croupe arrogante le banc de la famille qui ne lui a rien fait. Cette sémillante gorgone qui essaie tant bien que mal d'abriter son âme noire sous le masque trompeur de sa pulposité nordique. Cette maudite gargouille graffiteuse qui avilit ta villa, entraînant dans la fange le souvenir de Thérèse, la grande, l'humble Thérèse, celle qui pleure quand on la hausse. Et qui rit quand on la baisse. Oh. Cette étaillère feutrée de la gauche caviar. Et quand j'ai dit étaillère feutrée, je ne sous-entends pas, madame, que vous faites des passes sur la pointe des pieds, pas du tout. Je veux dire que vous avez prostitué votre feutre et trahi notre noble cause bourgeoise en allant dessiner dans le Nouvel Observateur le journal de machin, comment s'appelle-t-il déjà, celui que le faire par pensant là. Jean Daniel. Mon Dieu, comme cet homme est peu prime sautier. Le soir du 10 mai 80 et quelques, quand la populace a cru que c'était la révolution, Jean Daniel a essayé de chanter « On a gagné » avec les autres. On aurait dit un moine anémié psalmodiant un chant grégorien aux obsèques de Léon Blum. Et la dernière fois que je l'ai vu, il me semble, si ma mémoire est bonne, que c'était dans une partouze à Neuilly. Il s'est approché de moi et, bien qu'il fût alors tout nu, avec un caleçon sur la tête et un confetti sur le nez, j'ai vraiment cru lire sur son visage qu'il allait m'annoncer que l'ensemble de ma famille venait d'être décimé dans un accident d'automobile. Du pimpant séducteur que j'étais, disais-je, avant d'être une fois de plus interrompu avec une extrême grossièreté, par la seule personne au monde de qui je puisse tolérer pareil camouflet, c'est-à-dire de moi-même. Du pimpant séducteur que j'étais, cette femme a fait un homme brisé, irrémédiablement brisé, d'autant plus irrémédiablement brisé que personne, hélas, hélas, ne pleura jamais ma brisure. Car enfin, Dieu me bascule, merci mon Dieu. Il ne suffit pas qu'un homme soit brisé pour qu'on le pleure, encore faut-il qu'il soit consigné. Pourquoi, ramassis de cafards trichromosomiques hypotendus que vous êtes, pourquoi croyez-vous que Clovis pleura si fort le vase de Soissons? Parce qu'il était consigné, imbécile. Oh, créature diabolique, tu as brisé mes illusions. Oui, Claire, tu me les as brisées. Oui, Claire, tu me les brises encore. Perverse beauté scandinave, à ce stade de ma harangue de la Baltique. À ce stade de ma harangue de la Baltique, mesdames et messieurs les jurés, j'ai gonflé de le dire deux fois, je vous dois quelques révélations concernant ma vie privée et celle de l'accusé, qui devraient normalement émouvoir les Q-Mélonimbus d'ici Paris et France Dimanche. Claire Bretéché n'est pas la pieuse paroissienne de Saint-Honoré-des-Laux que tout le monde croit. Elle a une vie sexuelle organisée. Et avant sa rencontre avec Michel Jobert dans le Paris-Poitiers, cette femme était mienne. Ah, Claire, mon amour, va, je ne te hais point. Je comprends que tu m'aies quitté pour petit Michou.
que celle qui n'a jamais rêvé de cacher son amant dans sa culotte lui jette la première pierre. Mais cruel, que n'as-tu montré quelque pitié pour celui qui t'a tout donné et dont aujourd'hui il ne reste rien ? Rien, rien que ce cœur qui saigne sans le secours hémostatique de ton baiser antinévralgique, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Claire et moi, monsieur le président, nous connaissons depuis toujours l'un et l'autre abandonnés par nos parents collaborateurs à la Libération. Nous avons tété la même nourrice nantaise en même temps. Dieu, comme les seins de cette femme étaient énormes. Ça crée des liens, monsieur le président.
C'est une image.
Dès son plus jeune âge, Claire manifesta des dons certains pour le dessin et la peinture. C'est elle qui m'a appris à manier les couleurs et à tenir mon pinceau bien droit. Je nous revois encore armés de mercurochrome et des tubes de rouge à lèvres et de fard à yeux de notre nounou, reproduisant le radeau de la méduse sur le papier peint blanc du salon. Tu guidais mes balbutiements picturaux. Rappelle-toi, Claire.
Alors, ça, là, n'est-ce pas ? Et ça, là.
Comme ça ?
Non, pas comme ça. Comme ça. Et ça, là.
Comme ça ?
Là, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien.
Ah bon ?
Ah oui, c'est épatant. C'est vraiment épatant.
Ah oui, Claire, c'était épatant, nous deux. Au printemps, quand la merlotte rieuse merlotait dans ses premières plumes frissonnantes sous la brise froufroutante des plus fins zéphyrs du renouveau breton que Phébus, encore palot, dardante à la nue, les raies apaisants de sa splendeur vespérale diffusaient en caresses au creux du cou des filles, tel un duvet diaphane en robant de plaisir, la moiteur attendrie d'un mamelon dodu qui rise en mille vaguelettes de tendresse exaltée, le soupir atlantique du Norrois qui s'étale et lisse au cœur des dunes, l'herbeux Zoya des bords de mer, où la coccinelle sodomise le coccino. Dans un tintinabulage aigu des litres froissés, au printemps, disais-je, sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont, Claire et moi participions souvent au concours de château de sable du Figaro. Sans son aide, je n'aurais jamais gagné. Ah, certes, tout seul, je me débrouillais tant bien que mal. Une année, j'ai même décroché un accessit dans la catégorie château populaire pour avoir entièrement reconstitué en 3 minutes 20 la ville de Sarcelles avec une boîte de corn beef retournée. Mais sans Claire, jamais, jamais je n'aurais eu le premier prix en catégorie château renaissance pour mon célèbre retour de chasse à Chambord, entièrement en sable fait à la main avec allégorie sous la troisième tourelle à gauche de l'aile droite de la galerie sud qui montrait Éléonore d'Espagne poursuivie par un cerf et remontant sa culotte en traversant le Loir-et-Cher pendant que Diane de Poitiers, à quatre pattes sur le pont-levis central, inventait le magnétoscope à huile qu'elle allait la rendre célèbre 450 ans plus tard grâce aux habiles manœuvres du fœtus à pompons. Sans toi, Claire, jamais, jamais je n'aurais su manier le sable humide et pétrir sa blondeur avec autant de doigté. Cela aussi, je te le dois. Rappelle-toi, Claire.
Alors, ça là, n'est-ce pas, et ça là.
Comme ça ?
Non, pas comme ça, comme ça, et ça là.
Comme ça ?
Là, oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est très bien, c'est très très bien.
Ah bon ?
Ah oui, c'est épatant, c'est vraiment épatant.
Puis vint le jour de notre communion solennelle à Saint-Honoré-des-Laux. Tu avais 12 ans, tu en paraissais 15. L'après-midi, lors du goûter d'enfant chez notre marraine, la maréchale Leclerc, tu as tenu à montrer ta chambre à mes petits amis, petit Louis et petit Claude. C'est là que tous les quatre, nous avons joué à observer les papillons. Rappelle-toi, Claire.
Alors, ça là, n'est-ce pas, et ça là ?
Comme ça ?
Comme ça ?
Non, pas comme ça, comme ça, et ça là ?
Comme ça ?
Comme ça ?
Là, oui, c'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien.
Ah bon, bon.
Ah oui, c'est épatant, c'est vraiment épatant.
Donc, Claire est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.
Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Maître Régaud, nous vous écoutons.
Amis drogués, bonjour. Je suis ravi, I am ravious. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 3 mois, Bretéché, vous êtes la 3e femme que nous recevons ici. Une fois par mois, c'est la bonne moyenne, on essaiera de s'y tenir. Claire Bretéché vient de dessiner et faire des bulles dans un album intitulé Les Mères, dont on a parlé ici pendant des heures, et c'est normal, elle est venue pour ça, ici. Non, ne me dites pas le contraire, vous feriez mauvaise impression sur les jurés, laissez-moi faire. Bretéché, vous avez dit dans le questionnaire du juge d'instruction que vous haïssez la créativité, vous avez vécu avec des créatifs, je vous cite, d'ailleurs le président Villers l'a fait tout à l'heure, ils sont nombrilistes, égoïstes, sans intérêt et invivables. Bon, vous êtes une créative, je ne sais pas si on peut le dire en féminin, de toute façon je m'en fous, je dis ce que je veux. Donc je disais, vous êtes une créative, je suis bien placé pour le dire puisque je suis professeur de BD. Et comme vous le dites vous-même, vous devez être nombriliste, égoïste et invivable puisque vous êtes créative. Vous ne savez peut-être pas, Bretéché, que je suis également professeur en psychanalyse psychologique. Et je me demande si cette haine des créatifs n'est pas en fait une haine détournée de vous-même. C'est fin comme analyse psychanalyse psychanalytique. Ne riez pas, président. N'est-il pas ? Vous ne vous aimez pas, mais pourquoi ? Vous avez tout pour vous plaire. Le don, le succès, la beauté, la santé. Pour savoir d'où vient votre malaise, il faudrait remonter à votre enfance. Mais comme j'ai pas le temps, je vais remonter à il y a 5 minutes. Alors, il y a 5 minutes, je disais que vous veniez de publier un album sur les mères, finement observé. Je sais de quoi je parle, je suis professeur de finesse. Et j'ai déjà été enceinte. J'ai eu une grossesse heureuse sans problème. Mais j'en ai chié pour accoucher, si je puis dire. On dit toujours que les mères en bavent pour cracher leur crapaud. Eh ben, dans mon cas, ma grosse, et le mot n'est pas trop fort, n'a rien senti, puisqu'on l'a endormie. Et moi, qui n'ai pas eu droit à l'anesthésie, et qu'on a laissé tout seul dans une salle d'attente, comme un chien abandonné, pendant des heures, j'ai failli crever de trouille. À une époque où la médecine conseille fortement au père d'être présent au moment de l'accouchement, on n'a rien prévu pour les aider à surmonter les contractions. Et croyez-moi, j'en ai eu à revendre. Alors la première femme qui me dira « Vous les hommes, vous ne savez pas ce que c'est, les douleurs de l'enfantement », je lui file un coup de latte dans le ventre. Je râle, mais j'admets que la médecine du ventre des femmes a fait beaucoup de progrès. Maintenant, il y a l'ASD, l'IVG, ami inculte, ça n'a rien à voir avec le TVG. Le TGV, pardon. L'IAD qui est l'insémination artificielle avec donneur. Ami médecin, en passant, ce sigle est un pléonasme parce qu'on ne connaît qu'un cas sans donneur. Celui de la Vierge Marie, avec tous les problèmes que ça entraînait, le gamin en question se prenait pour le Fils de Dieu. Et puis un nouveau sigle, l'UPV, qui ne veut pas dire union pour Valérie, mais les utérus porteurs volontaires. Ça veut dire qu'une femme stérile comme moi, qui ne peut pas avoir d'enfant, hein, je loue pour 9 mois le ventre d'une volontaire, qui me donnera le bébé contre une somme d'argent à discuter selon son poids et sa beauté. Madame, je vous avais commandé une petite fille blonde ressemblant à Brigitte Bardot et vous m'avez fait un garçon qui ressemble à des proches. Je vous file 10 balles, estimez-vous heureuse que je le prenne. Je vais essayer de le refiler à des proches qui n'ont pas de garçon. Voilà, ça c'est les risques de l'UPV. Mais enfin, pour les femmes stériles qui désirent avoir un enfant, c'est mieux qu'un chien. Et ça vit plus longtemps et ça salit moins les trottoirs. Toujours à propos de l'utérus porteur volontaire, il y a un cas récent dont on a vu le poids des photos et le choc des mots dans Paris Match. C'est le cas de 2 vraies jumelles dont une porte l'enfant de sa sœur qui, elle, est stérile. Elle s'est fait inséminer la petite graine de son beauf, ce qui fait qu'elle est enceinte de son neveu. Vous me suivez, non? Étonnant, non? C'est du vrai photoroman dont Paris Match a le secret. La mère porteuse ayant déjà 2 enfants inséminés directement par son propre mari, une question qui alimentera les conversations chez les coiffeurs se pose. Le bébé qui va naître sera-t-il une fille ou un garçon? Premièrement. Deuxièmement, sera-t-il cousin ou demi-frère des enfants de la mère porteuse? Troisièmement, le mari de la mère porteuse se sent-il cocu? Si oui, cherchera-t-il à se venger en sentant sa belle-sœur stérile? En tout cas, ça sera qu'une demi-infidélité, sa belle-sœur étant la jumelle de sa femme. Bon. On pourra toujours dire qu'il s'est fait la paire.
Silence, les bovins.
Bref, si j'ai ouvert cette parenthèse, c'est qu'en tant que mère, je suis concernée, par les problèmes de l'enfantement, ce qui nous mène directement à l'élevage de ces petits êtres merveilleux qui ressemblent à des nains, au moins propres. Ah oui, la propreté chez un enfant, c'est très important. Vous connaissez le rapport que les bébés ont avec le caca. Ils en sont fiers, ils jouent avec, et si on n'était pas là pour les en empêcher, ils en boufferaient même. On connaît le résultat des anciennes méthodes de dressage qui consistaient à les fouetter à chaque fois qu'ils se laissaient aller. Ça donnait Napoléon et son désir de vengeance sur l'humanité. Aujourd'hui, on prône la tolérance. Chérie, viens voir. Oh, il a chié juste à côté du pauvre. Bravo, mon bébé. Plus que 10 cm et ce sera dedans. Chérie, fais gaffe à pas le traumatiser en lui faisant remarquer qu'il a loupé le pot de 10 cm. Mais bébé, qu'est-ce que tu fais? Le pot, c'est pas un chapeau. Chérie, laisse-le jouer avec, y a rien dedans. Oui, d'accord, mais à force de le laisser prendre le pot pour un chapeau, il finira par faire caca dans mon chapeau. Toutes les mères comme moi connaissent ce problème. À Noël, j'ai offert à ma fille un siège de water pour enfants. Ça s'appelle un réducteur. C'est un cercle en plastoche. Ça vaut 39 francs. Comme le nom l'indique, ça réduit le trou du siège. Il suffit de placer le réducteur au-dessus du siège normal et hop, votre bambin peut faire caca comme un grand sans risquer de tomber dans le trou. Le réducteur s'enlève aussi facilement qu'il s'installe. Un autre avantage, une fois installé, l'enfant ne peut plus descendre. Il a les pieds à 30 cm du sol. Prévoyez Paris Match pour pas qu'il s'ennuie. Vous savez comment ils sont, les enfants très copieurs veulent toujours faire tout comme les adultes. La mienne qui a 2 ans l'a inauguré aussitôt. Je lui ai passé les mères de Bretéché. Elle l'a lu. Au bout d'une heure, elle m'a appelé en hurlant « Papa, 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 ça y est, caca, caca !» Elle mettait la tête dans le trou. Bref, c'était la fête. Voilà, ce n'est pas un vas-y donc un Rego super gadget, non, mais c'est astucieux quand même. Je me suis d'ailleurs demandé comment se fait-il que le réducteur n'ait pas été inventé depuis longtemps. Ma fiancée me l'a expliqué, elle m'a dit « ça existe depuis longtemps, mais toi tu n'es mère que depuis 2 ans ». Allez les mères, avant de tirer la chasse, un conseil comme ça, ça vaut bien un déluge d'applaudissements, non ?
Claire Bretéché à la barre dans le Énerver la suite France Inter Plus. On se retrouvera lundi pour la suite de cette série consacrée au tribunal des flagrants délires avec Tata Yo-Yo, oui, Annie Cordy. Réalisation Stéphane Combe, préparation Virginie Rosic. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. À lundi.